Soyez les bienvenus avec Leïla Kadobouji.
Bonjour à tous.
Daniel.
Bravo Daniel.
Bravo.
Bravo Albert.
Guillaume Gouriz.
Bravo.
Bonjour.
Albert Algoum. Albert Algoum.
Oui.
Richard Donat qui nous accompagne au piano. Mais non, t'es partout Albert en fait.
Bravo. Et
Yvonne Dumas, notre invité.
Bravo. Qui ça? Bonjour, bonjour. Mireille Dumas.
Mireille Dumas, ouais. La vraie Mireille Dumas.
Mireille Dumas.
C'est trop chic, non? C'est classe. Mireille, merci d'être à notre micro, Mireille.
C'est moi qui suis
merci.
Heureuse.
Merci. On va parler d'un documentaire passionnant que j'ai eu la chance, nous avons eu la chance de voir. Sur Paul Naref, Michel Delpech, Nino... Pardon. Michel Polnareff, Michel Delpech, Nino Ferrer. Ils ne s'appelaient pas tous Michel, contrairement
mais
à ce
voilà,
que disait Benabar
ce
dans la chanson.
Difficile.
La rançon du succès avec des destins croisés et des histoires personnelles assez frappantes et marquantes. On va en parler, mais est-ce que François, vous avez bien compris pourquoi Mireille Dumas était notre invitée?
Bien sûr que je le sais, Nagui. Et je suis fou de bonheur de rencontrer Mireille. Salut, Mireille. J'adore vos documentaires, vos docus. Ce qui n'est pas le cas de Nagui. Non seulement jaloux de votre succès, il vous surnomme la mère docu, mais en plus, tout
non,
à l'heure...
Non, la mère docu, non.
Tout à l'heure, mais si, il fallait voir comme il a secoué mon copain GNB, notre rédac chef, quand il a embrigué c'est vous qui veniez. Qui ça? Mireille Dumas. Pourquoi pas Mireille Mathieu ou Alexandre Dumas, comme pendant que tu y es. Quand je pense qu'à Taratata, je me donne un mal de hiinge pour mettre en valeur des artistes qui jouent en live, et toi, tu t'extasies sur la Dumas qui ne kiffe que les chanteurs morts ou morts vivants. Mais bon,
il est pas mort, Polnareff.
Mais bon, oui, quasiment. Mais bon,
oh,
j'avais fait.
Non. Quelle horreur!
Et puis je compte sur François pour faire le pitch et pour les compliments. Puisque vous tenez au pitch, eh bien, la rançon du succès, je dirais que c'est un documentaire qui montre que le succès a toujours sa rançon. Voilà. Ça fait réfléchir.
Merci.
Ça fait peur. Quant aux compliments, moi dont la famille habite dans le Loir-et-Cher, j'étais bouleversé de revoir tous ces documents sur Michel Delpech. Moi dont la chienne s'appelle Mirza, j'étais très ému de retrouver Nino Ferrer. Moi qui ai une poupée qui dit non. Quel plaisir de replonger dans l'intimité de Michel Polnareff. Malheureusement, Mireille, il manquait un chanteur qui lui aussi a su bousculer la société française et qui a connu le tourbillon du sexe, de la drogue et de la dépression. Daniel Morin, qu'il adore, pense que c'est Jérôme. Mais c'est pas Jérôme, non. Celui qui manquait dans la rançon du succès, c'est François. Oui, c'est moi, François. Et d'ailleurs, Mireille, tu aurais dû me consacrer cette rançon du succès, car moi tout seul, je suis la synthèse de tous les François chanteurs. François Valéry, Frédéric François, Claude François, François Feynman, Jean-Pierre François, François Hardy, François Mitterrand. Non, qu'est-ce que je raconte? Oh, je suis fatigué. C'est la rançon du succès. Bonne émission.
N'importe quoi. Merci, Albert Gou.
Bravo.
La bande originale, la vie sur France Inter.
Un calé, je fais du cœur libre tous les jours.
Donc Michel Polnareff, donc évidemment Nino Ferrer. Qu'est-ce qu'elle est belle cette chanson.
Ah ouais.
Le temps dure longtemps.
Et évidemment, puisque tu en parlais, le Loir-et-Cher de Delpech, entre autres. Ces destins croisés, ces histoires, ces carrières racontées, vous les présentez d'ailleurs dès le début du documentaire en disant qu'il y a le romantique, le dandy et l'excentrique. Mais ils ont énormément de points communs, ces trois artistes, quand vous racontez leur histoire et leur destin, qui ont tous connu à peu près les mêmes embûches, qu'elles soient personnelles ou professionnelles.
Exactement, ils ont commencé les trois au milieu des années 60. Avec effectivement des personnalités, des répertoires très très différents. Ils ont connu un succès phénoménal, ils ont connu la gloire, les voitures, les fans, les femmes. Mmh. Enfin bon, voilà. Et à l'époque, les signes extérieurs de richesse se montraient.
Ah, les voitures de Nino Ferrer dans le doc sont juste dinguissimes.
Ben oui,
la collection, c'est incroyable.
C'est une collection. Il adorait les belles choses. D'ailleurs, je voulais dire aussi au début des années 60, ce qui était intéressant, c'est qu'ils se sont répondus à 6 ans d'écart. C'est que quand Polnareff, Michel Polnareff, de son prénom, sort.
Je croyais qu'il s'appelait Paul Polnareff.
Voilà, faire l'amour avec toi.
Faire l'amour avec toi,
J'aimerais simplement faire l'amour avec toi.
Michel Delpech.
Voilà, et à ce moment-là, on est quand même sous De Gaulle. Ça crée un scandale. Ce n'est diffusé à la radio qu'après 22 heures. Il faut le savoir.
Parce que De Gaulle, l'avait pris pour lui, c'est ça.
Non, parce que mais à l'époque, ça ne se disait pas.
Sûr,
c'était un gros mot. On disait vraiment avoir des relations sexuelles, ce qui était
encore,
un petit peu moins, un petit peu moins fun, hein, un peu chirurgical, mais on parlait comme ça. Mm. Et donc, ça fait scandale et tout. Et 5-6 ans après, c'est en 71, Michel Delpech
lui répond.
Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi.
Tous les deux romantiques, c'est plus romantique.
Les deux ont marqué quand même leur époque, que ce soit Michel Polnareff avec cette dire faire l'amour et ensuite Michel Delpech sur la séparation, le divorce en fait.
Exactement, c'est qu'ils ont voilà, pour revenir à leur point commun et aux bascules dont on parlera j'imagine ensuite, mais c'est vrai qu'ils sentent l'époque et ils écrivent des chansons parfois un petit peu en avance, parce que Les Divorcés de Michel Delpech a fait aussi scandale à son époque, puisque le divorce, surtout un divorce par consentement mutuel, où l'homme dit à sa chair et tendre, voilà, et
on pourra dans le premier temps
une machine.
Tout est prêt.
Le temps de faire le nécessaire.
Alors c'est vrai que ça avait choqué. Michel Delpech raconte dans votre documentaire que certains achetaient ce disque pour le distribuer à d'autres, pour comme pour les rassurer, voilà, en disant tu vois,
c'est pas grave.
C'est pas grave. Et que les parents de Michel Delpech se sont inquiétés de sa propre vie privée en disant s'il écrit ça, c'est qu'il doit y avoir quelque chose qui va mal dans le couple.
Et il n'avait pas tort, puisque quelques années après, il a divorcé, et pour lui, ça a été quand même un début difficile pour lui.
On apprend, alors là, on est avec des textes qui reflètent vraiment La société dans laquelle ces chansons ont été un moteur et surtout un révélateur de ce qui s'y passait. Nino Ferrer, quant à lui, explique notamment dans une chanson que lui, tout est venu du jazz. Et comme il avait du mal à trouver des paroles qui pouvaient aller, qui pouvaient swinguer avec la musique, le jazz, le rythme qu'il voulait donner, il a été obligé de faire des chansons un peu plus rigolotes.
Des cornichons, de la moutarde, du pain du beurre, de petits oignons.
Et on sent que c'est dans le documentaire, oui, que c'est finalement cette manque de reconnaissance de belles chansons ou de chansons à texte.
Oui,
il y a une interview incroyable que vous passez de Denise Glaser qui est.
C'est insensé, c'est-à-dire que
il est incroyable.
Oui, ça fait mal même quand on le regarde, parce que justement il aimait le jazz, il explique donc il met un petit peu des onomatopées pour que ça fonctionne.
Ça swing,
ce sont des succès formidables. Il se retrouve enfermé dans ce succès, mais comme dans d'autres d'ailleurs qu'il les revendique. Hein. Mais simplement, il est enfermé ensuite dans le Sud. On lui demande toujours les mêmes chansons et il n'arrive pas à s'en dépêtrer. Et quand il part un petit peu, il quitte la France, etc. Il revient en espérant se faire oublier.
Alors lui, il a quitté la France pour l'Italie, pas pour des raisons d'impôt, mais pour ses racines personnelles.
Parce qu'il s'appelle Ferrari au départ, voilà, bien sûr.
D'où son amour d'Emmanuel.
Voilà.
D'où son élégance.
Ah oui, il était une élégance.
C'est vrai, italien, c'est mon pays. Donc il repart. Ma mère était italienne.
D'accord.
Donc il repart dans son pays. Quand il revient, Denise Glaser, qui était quand même à l'époque juste l'intervieweuse top, on disait fine, etc., lui demande, alors qu'il ne veut plus, il vient pour dire qu'il ne veut plus entendre parler de ses chansons, elle lui demande de les rechanter.
Ah, là, c'est un moment de solitude.
Il s'y prête et il s'interrompt parce que c'est trop pour lui.
Ah, ouais.
Non, mais attends, c'est pire.
C'est fou.
C'est-à-dire qu'il commence, je ne sais plus si c'était Mirza.
Mirza, oui,
mais il commence Mirza pour lui faire plaisir et puis il s'arrête. Il dit non, je ne peux pas, vraiment j'en ai marre de chanter toujours ces chansons-là. Et Denise Glaser dit, bon d'accord, alors le téléphone.
Ouais. C'est terrible.
Bing.
C'est terrible, c'est terrible pour lui.
Professionnel.
Alors qu'il a écrit des textes sublimes.
La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignée.
Et c'était véritablement sa maison, on en voit des images de bonheur, de partage, d'animaux justement qui courent dans les champs, dans les prés, des histoires d'amour incroyables. Et cette maison qui sera, ça aussi on l'apprend, on va pas dire ce qui se passe, parce que moi ça a été une révélation pour moi dans votre documentaire, donc laissons quand même un tout petit peu aux téléspectateurs ces informations choc qu'il y a dans ce doc ou ces révélations, mais cette maison sera le lieu de la tragédie de son suicide et vous expliquer le contexte et finalement ce qui s'est passé dans sa vie personnelle pour le pousser à ce suicide. C'est contrairement à ce qu'on a pu penser, ni la maladie, ni le désamour du public ou une quelconque faillite. C'est quelque chose de beaucoup plus personnel, ouais, et familial. Alors justement, vous traitez dans ce documentaire, et c'est sa force, il y a énormément de succès, il y a énormément d'images d'archives passionnantes, de looks improbables, de chorégraphies totalement dingues, où on voit il y a cinq danseuses autour de Paul Nareff sur la Maison Vive.
Ah oui,
qui swing, ah, j'adore. Ouais. Non mais qui danse même pas en rythme en plus, c'est n'importe
elles
quoi.
Elles sont complètement dans le décalage.
Elles se trémoussent.
C'est affreux.
Non mais il y a très belle chorégraphie par ailleurs. Il y avait une vraie création quand même sur d'autres morceaux qu'on voit dans le documentaire. Moi je trouve qu'il y avait des vrais beaux moments chorégraphiés, qu'il y avait un vrai intérêt sur le style, sur le détail, sur le look.
Là tu parles de la séquence avec les filles du Crazy Horse totalement nues pendant qu'il y a
non.
une interview.
Ah oui, ça c'est improbable. C'est aussi. Improbable. Bien parler des femmes, enfin cela dit, je comprends.
On n'imaginerait pas ça aujourd'hui.
Non, c'est impossible. Aller au Crazy Horse pour parler de la femme, juste avec les revendications féminines, donc elles sont toutes nues à côté, c'est quand même
juste,
énorme.
Oui, en plus, on sent la mise en scène, parce que, comme par hasard, elle arrive de dos, et on voit que c'est fait, et elle se retourne pour voir si la petite ficelle va bien, juste pour qu'on voit ses seins, et elle repart, et il y a 4-5 filles comme ça, pendant que toute l'interview se fait sur, et les femmes, la place des femmes dans votre chanson et dans votre vie,
incroyable.
C'est improbable. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'évidemment, il y a tous ces succès, évidemment qu'il y a toutes ces carrières avec les hauts, les bas, et comme l'a dit François tout à l'heure, la rançon de la gloire, si tant est que la gloire nécessite forcément une punition derrière ou une rançon derrière. En tout cas, c'est ce qu'ils ont subi, ce qu'ils ont vécu. Mais surtout, la manière dont leur vie privée, leur vie personnelle, était totalement lisible et transparente dans les chansons et avait une incidence immédiate dans leur carrière.
Mais exactement. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce film.
Marche.
C'était oui. Ben voilà, c'était de rendre tout ça très très lisible, de montrer la cohérence entre l'œuvre et la vie. Et c'est vrai que moi, j'ai découvert, mais de façon phénoménale, à quel point, par exemple, Michel Delpech écrivait, mais toute sa vie, ses joies, ses peines, sa dépression, tout, il a tout écrit. C'est un livre ouvert.
C'est totalement transparent quand il chante.
En vérité, je vous le dis, je vais profiter de la vie.
Je suis le roi de rien. Enfin, c'est des gros moments de doute dans sa vie.
Ça, c'est une chanson très peu, moins connue.
Non, c'est pas un énorme succès.
Voilà, c'est pas un énorme succès. Elle est magnifique. C'est quand il s'aperçoit que finalement le succès, tout ça, bon, ok, c'est bien, mais il a traversé une grosse période de déprime et enfin, il retrouve l'amour avec sa seconde épouse Geneviève, qui témoigne d'ailleurs comme toutes les épouses.
Formidable.
Elles sont magnifiques.
Formidable. Ouais.
Les épouses sont
non, elles sont
magnifiques,
émouvantes.
Voilà, et elles disent les choses vraies. Elles ne se cachent pas, elles ne se drapent pas. Et elles disent tout simplement la vérité telle qu'elle.
Mais ça, c'est votre travail aussi, d'arriver à les faire accoucher de ça, de
un
la vérité.
Un petit peu, parce que, j'essaie. Ah oui.
Non, mais c'est pas évident. C'est son travail, mais voilà. Mais c'est pas évident, parce qu'il y a toujours une espèce de pudeur où on se dit, revenir après des années ou après un deuil, pour passer à la télé, pour raconter, j'étais la femme essentielle de sa vie, c'est moi qui lui ai permis de vivre heureux ces derniers jours, c'est extrêmement délicat. Mais ce n'est pas ça qui est raconté. C'est exactement ce qui se passait dans la tête, dans le cœur, et dans l'écriture de ces artistes, parce qu'ils étaient tous...
Ce qui est une blessure.
Ils étaient auteurs aussi.
Bien sûr, auteurs, compositeurs, ou auteurs et compositeurs, interprètes. D'ailleurs, quand vous disiez tout à l'heure...
Il y a quelques commandes, il y a quelques auteurs qui viennent en expliquant que...
Oui. Jean-Loup Dabadie, parce que Jean-Loup Dabadie a écrit des textes absolument magnifiques à Michel Polnareff, Lettre à France, où j'ai oublié d'ailleurs... Nous irons tous au paradis, évidemment.
Nous irons tous au paradis, c'est comme ça que vous finissez d'ailleurs le doc. Sur une image d'ailleurs de Michel Polnareff, qui est le dernier encore en vie de votre documentaire.
Toujours en vie, pas encore.
Oui,
toujours
en vie, heureusement.
D'ailleurs, c'est fascinant la façon dont vous traitez ce personnage de Michel Polnareff, parce que c'est vraiment un personnage, de voir comment très tôt il a compris qu'il fallait créer une identité visuelle forte, comment à travers les albums, les couvertures d'albums, il fallait essayer de provoquer le bourgeois pour susciter une émotion. à mon sens, il est, alors sans le comparer aux deux autres, il incarne quand même quelque chose de très très fort dans la création artistique.
Et dans la pub CTLM, il est bon aussi.
Non, mais quelle
horreur.
Sans vous demander une préférence pour cette.
Non, mais
artistes,
c'est vrai qu'il est extrêmement moderne. C'est-à-dire qu'il était moderne à l'époque, il est toujours très très moderne, très en avance sur tout. Bon, c'est un mélodiste absolument, absolument magnifique. Et moi, j'étais heureuse parce que ça, on a vraiment cherché, on a trouvé de très belles archives qui n'ont jamais été diffusées de lui, tout jeune.
Et
on retrouve, il est mignon, on retrouve, on retrouve ce regard d'enfant qu'on a oublié avec caché derrière ses lunettes.
On a parlé évidemment de leurs épouses, de leur famille, les enfants sont présents également et on voit à quel point il renaît Michel Polnareff de la naissance d'un enfant sur le tard. On voit le bonheur de Michel Delpech de présenter son fils sur scène à la guitare. Il y a les témoignages des enfants aussi de Nino Ferrer qui viennent expliquer finalement que pour lui, le milieu de la musique pour Nino Ferrer avait été d'une violence inouïe.
Le star system.
Voilà, star system.
D'ailleurs, pour Michel Delpech aussi. Hein, il était trop jeune. Ça arrivait trop tôt, trop jeune.
C'est vrai. Et la notoriété et l'amour facile avec les fans ou les groupies. Cette chanson de Delpech qui chante.
Je n'ai jamais trop accueillie, sauf quelques fois.
Avec des groupies.
Ah oui, voilà.
Non, mais vous la connaissiez, celle-ci?
Non, pas du tout. Mais elle est juste improbable, cette chanson.
Il commence comme ça. Je n'ai jamais trompé, sauf quelques fois.
Ah oui, ça, c'est autre chose. Ça en est une autre.
Non, mais je sais plus comment. Elle s'appelle comment d'ailleurs?
Elle s'appelle L'aveu. Non ?
Ah, peut-être, les aveux.
Il est fatigué.
Non, c'est pas ça.
Non, c'est quand il. C'est le chanteur. Pleurer le chanteur, pardon. C'est pleurer le chanteur.
Voilà, c'est ça.
C'est ça.
Gardez pleurer le chanteur. Y a pas de chagrin mineur. Ce coup-là, ça va pas marcher.
Mais il vous dit clairement
c'est au début de la chanson.
Une groupie de temps en temps, on peut bien serrer dans ses bras une groupie.
Mais d'ailleurs, à l'époque, ils avaient l'air très ouverts, même les compagnes en parlent, de la relation à l'amour et à
ça
la
a
notion
changé.
De fidélité.
Ce sont les années 60, 70, sont les années avant Sida. Sont des années où c'était beaucoup plus. L'amour était plus libre.
Ça me dégoûte ce que vous dites.
la femme de Ferrer, Nino Ferrer,
on comprend
dit presque
qu'ils ont vécu
à demi-mot
qu'il
y a une autre jeune femme, une chanteuse américaine qui est là.
C'est pas tout à fait comme ça, mais on sent qu'il y a une grande liberté dans ce couple.
En tout cas, elle a accepté, et je ne vous dirai pas avec qui, elle a compris que Nino Ferrer la trompe pendant qu'une petite semaine, et pourtant lui, dans une interview, il parle d'une véritable histoire d'amour, il était totalement...
Il dit qu'il était amoureux, c'est toujours devant cette fameuse Denise Glaser, il lui en dit des choses.
Il lui en dit des choses.
C'est terrible, parce que il dit pas juste « je l'ai trompé », à la limite...
Non,
c'est qu'il était amoureux.
Il était amoureux et que ça s'est arrêté trop vite à son grand âme. Il aurait bien aimé que ça dure.
C'est quelqu'un de connu.
C'est quelqu'un d'extrêmement connu. C'est
une
star iconique dans le monde à l'époque. Aujourd'hui, c'est devenu n'importe quoi, mais c'est une
Brigitte
star.
Bardot.
Voilà.
Yeah. Hop là.
Mais ça n'enlève.
N'oubliez pas, votez dimanche.
Je n'avais pas. Mais je n'avais pas envie de déflorer le documentaire de Mireille Dumas, mais en même temps.
En déflorant, en parlant de Brigitte Bardot, c'est un peu poussiéreux.
Mais en même temps, le regard, le sourire.
Et tous les hommes tombaient amoureux de Brigitte Bardot.
Oui, apparemment, ils ont tous couché avec, en plus. Mais voir.
Je vous en prie, pas moi.
Mais en tout cas, de voir le sourire cet excentrique, mais qui a aussi un côté très dandy, très british pour un Italien, raconter cette histoire d'amour avec ce l'œil mouillé de regret et de cette rupture, c'est extrêmement fort. Enfin, le doc est fort, le travail de Mireille Dumas est passionnant, ces destins croisés, ce n'est pas simplement une série de grands succès. Et quand même, il y a des grands succès, et ça vous fera chanter, et ça vous fera du bien de réentendre tous ces succès dans ce documentaire qui passera demain soir à 20h50 sur France 3. Mais en plus, il y a toute une analyse. On parlait des problèmes dans la vie privée des épouses, mais
très actuel.
Et il y a les parents et le rôle des mamans et par exemple le fait que Michel Polnareff ait finalement quitté la France, oui, parce qu'il avait des problèmes, non pas parce qu'il n'avait pas payé ses impôts, mais il s'était fait totalement gruger. arnaquée par son homme d'affaires, mais c'est une fois le décès de sa maman que plus rien ne retenait en France, voilà, et à ce moment-là, il est parti.
Et sa vie complètement se transforme, chavire totalement, puisqu'il va passer, il habite toujours d'ailleurs les États-Unis.
C'est que les figures féminines, elles sont...
Il y a tout évidemment sur les fesses de Michel Panareff, cette campagne
de publicité. Le postérieur le plus célèbre
incroyable,
de France.
Incroyable. Et cette phrase.
C'est provoque et instinct du marketing aussi pour l'époque.
Oui.
Parce que sinon, elle aurait juste montré ses fesses une fois, mais de là à avoir l'idée de les faire développer en affiche. Il y a quand même
et de se retourner ensuite.
Il faut pas oublier oui, qu'on l'accusait à l'époque d'être homosexuel, d'où la chanson.
Je suis un homme. Je suis
C'était
un
une maladie à l'époque.
Non, mais surtout il y a une interview incroyable. Je ne sais pas qui fait l'interview, mais une question que l'on pourrait imaginer aujourd'hui.
Ah oui, non mais
avec un journaliste qui dit.
Ça c'est
en fait, Michel Panareff, vous n'êtes pas pédé. Et c'est lui qui fait ben non justement
vous m'avez dit ça pendant l'entretien d'embauche.
C'est toi qui m'as embauché, je te rappelle ici.
Qui a posé la question à qui?
Lui à moi pour que je travaille ici.
L'homosexualité quand même à l'époque c'était condamné, donc c'est quand même c'est terrible, et à travers justement ce documentaire là on prend aussi le pouls d'une époque, c'est ça qui est intéressant.
Tout à fait, parce que je crois qu'on a oublié que ce n'est qu'en 81 ou même je me demande si c'est plus 84, quelques années après, que c'était l'homosexualité a été dépénalisée. Absolument. Totalement. Ouais. Enfin, même Absolument. Si à l'époque, on n'allait pas forcément en prison, mais quand même, c'était encore soumis au code pénal.
Et depuis, donc, c'est devenu n'importe quoi.
Vous passerez une très, très, très bonne soirée et vous apprendrez beaucoup de choses. On ne vous a pas tout raconté. Même...
Depuis, Nagui vous pose des questions de ce genre.
Et pardon, même, c'est lui qui vous les pose. Et même si on vous a dévoilé quelques pans de ce documentaire, pendant les deux heures, vous serez toujours surpris, c'est extrêmement rythmé, illustré évidemment par les musiques, par des documents d'époque, mais aussi par des entretiens, célèbres entretiens de Mireille Dumas auprès des proches, qu'ils soient auteurs, compositeurs ou des enfants ou des épouses de ces trois artistes majeurs aussi de
la variété française.
Ouais, de la musique en France.
Non, je l'aide un peu.
Et non, parce qu'en en même temps, JB était en train de me dire que la dépénalisation de l'homosexualité date de 1982.
Oui, c'est ça, c'est 82, c'est juste après l'élection de François Mitterrand, en même temps que la peine de mort.
Après la peine de mort, c'était en septembre 81.
C'est ça, c'est complètement, ouais. Ça a été en même temps.
S'il avait été moderne, Paul Naref, il aurait dû dire, et alors ça vous fait quoi? Ça aurait été encore plus avant-gardiste.
Sans qu'il se justifie.
Oui, mais il était agressé, il a eu une agression sur scène, c'est sa première d'ailleurs vraie dépression, c'est quand il a été agressé, parce qu'il s'habillait dans des tenues très moulantes, il était très provocateur. Et c'est son, il a craqué. Il est trop jeune, il a craqué, donc il répondait au coup.
Lorsqu'on vous annonçait, Leïla Kadour Boudadi, la venue de Mireille Dumas, vos oreilles aussi.
Et oui, et quand je pense à vous, Mireille Dumas, je pense à un homme, à un metteur en scène qui a traversé un petit peu votre vie.
Pour nous, le spectacle idéal que nous cherchons toujours est le spectacle qui permet, comme dans un village, comme dans les villages en Afrique où nous avons joué, qui permet aux vieillards, aux jeunes, aux enfants, à tout le monde, de participer au même spectacle et pas de tirer la même signification, mais qu'il y ait une signification au même moment et à plusieurs niveaux pour chacun.
C'est Dominique Colonna, non?
Vous l'avez reconnu. C'est Peter Brook.
Peter Brook.
L'exceptionnel Peter Brook.
C'est grâce à lui, d'une certaine façon. Enfin, vous venez à Paris et vous travaillez avec des comédiens issus de sa troupe.
Oui, j'ai adoré travailler avec Peter Brook à Paris. Et ensuite, on est parti avec deux, trois comédiens à Aix-en-Provence. On travaillait dans les hôpitaux psychiatriques. On travaillait avec les enfants aveugles, selon la méthode de Brook, qui était formidable. Moi, qui m'a beaucoup appris pour mon métier d'intervieweuse, de réalisatrice, enfin en tout. Je ne voulais pas du tout être comédienne, c'était du théâtre expérimental. Je montais un petit peu sur scène, je détestais ça, enfin c'est vraiment pas pour moi. En revanche, on faisait l'expérience d'être soi tout en étant l'autre, enfin la dialectique un peu du comédien, entrer dans la tête de l'autre, comprendre, parler avec les gens qui n'ont pas forcément... Oui, mais parler surtout avec les gens qui ne peuvent pas communiquer, parce que les malades mentaux, c'est très compliqué de communiquer, donc on communiquait en perse. Peter Brook nous apprenait l'iranien ancien, donc on apprenait des tas de textes et on parlait en iranien ancien, on travaillait avec des bâtons, avec des cartons pour faire, on faisait ce qu'on voulait, quoi. Mais ça donnait aux personnes qui n'avaient pas forcément le langage, si vous dites papa, maman, vous parlez avec, c'est déjà codé, il y a déjà un signifiant.
Donc là,
c'était, c'est l'émotion qui passe. Ouais. C'était au-delà de ça. Et moi, l'un de mes plus grands souvenirs, c'est dans un hôpital, l'hôpital de Marseille, psychiatrique. C'est l'hôpital psychiatrique de Marseille. Pardon. On a travaillé avec un service, tout un service. Il y a eu une représentation absolument incroyable avec des personnes qui, juste avant que l'on arrive, faisaient de l'ergothérapie, des petites choses. Et d'un seul coup, ils ont joué, ils sont avec ces mots-là. Mm-hmm. C'était extraordinaire. Il y avait un monsieur, ça m'a beaucoup marqué, qui tremblait, qui avait, j'ai oublié le nom de cette maladie, etc. Et il a réussi pendant l'heure entière du spectacle. C'était un triomphe pour lui, sur lui-même. Il a joué un arbre sans bouger. Il avait fait l'arbre. C'est émouvant parce que sont des relations exceptionnelles et on comprend. On va au devant des autres différents. Moi, ça a été tout le sens de mon travail.
Et on le voit dans vos documentaires, dans la façon d'interviewer les intervenants. Et quand je pense à vous, je pense à un documentaire justement, André et Jacqueline, Les liens du passé, un documentaire qui parlait d'inceste. Je me demandais comment on parvient à faire accoucher de telles histoires et est-ce qu'on peut rester hermétique à cette souffrance qui vous est contée, mais à laquelle on peut sans doute difficilement réagir parce qu'on n'est pas non plus la victime. Comment on se positionne là encore ?
On se positionne, simplement en permettant aux autres de s'exprimer. Parce que l'idée, en fait, c'est de libérer la parole, mm-hmm. que les choses soient dites. Ce n'est surtout pas de libérer les interdits. C'est le contraire, on laisse bien l'interdit. C'est de pouvoir parler sur l'interdit, de pouvoir mettre des mots, de pouvoir enlever le cadenas. Moi, je pense que ça vient peut-être un petit peu, je vais faire un peu de la psy de bas étage, quand Monsieur Nazio va venir. quand je pense que ça vient un petit peu de l'enfance où moi j'ai vécu dans quelque chose d'un peu replié, d'un peu fermé. Ma mère était institutrice, on vivait dans la cour de l'école, c'était notre institutrice. Ma mère, elle a remplacé mon père qui est mort très jeune. Donc on était quand même assez enfermés et peu de mots se disaient. Mm-hmm. Alors qu'elle nous enseignait, peu de mots se disaient sur les sentiments. Et je pense qu'à l'âge adulte, j'ai eu envie de poser plein de mots sur plein de choses de la vie.
Vous êtes rattrapé depuis, qu'est-ce que vous parlez, hein?
Je suis là pour ça, hein. Puis vous ne me posez pas de questions. Donc je meuble.
On en parle tout à l'heure. On vous écoute. On en parlera tout à l'heure, en effet, avec Jean-David Nazio, qui est psychiatre et psychanalyste.
Et justement, faire sauter ces verrous-là dans la parole de l'autre, est-ce que quand on rentre chez soi le soir, on emmène ça aussi avec nous? C'est le problème de toutes ces professions au contact de
c'est
l'humain.
C'est très lourd. C'est très, très lourd. Moi, au bout de 4 ans, d'ailleurs, bas les masques, moi, je faisais du documentaire. En fait, je réalisais du documentaire. Je viens du documentaire, de la presse écrite, du documentaire. Et ensuite, très tard, j'avais 39 ans quand j'ai commencé l'antenne, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, bah les masques, j'arrive à 39 ans. Et donc...
Mais en même temps, il fallait une certaine maturité pour faire une émission comme ça. Ça ne pouvait pas être l'émission d'une jeune journaliste qui s'essaye à une première émission de télé.
Il fallait un petit peu de vécu.
Vous dites vous arrivez tard pour faire bas les masques.
Oui, mais je ne sais plus ce que je voulais vous dire.
Vous veniez du documentaire.
Sur le fait de rentrer à la maison pendant 4 ans, ça a été dur.
C'est ce que je voulais vous dire. Et donc, je suis arrivée pas préparée finalement moi-même à tous ces aveux, à cette régularité, c'était hebdomadaire, à la notoriété aussi, parce que moi je suis passée de l'autre côté de la caméra. Enfin, tout ça est arrivé en même temps et surtout...
Donc l'argent, les femmes, la drogue,
la bascule plus tard, la drogue, l'alcool, enfin, tout quoi.
La vie.
Et toutes ces tranches de vie me sont arrivées comme ça. C'est vrai, un peu en pleine figure. Et je n'étais pas forcément préparée. Et au bout de 4 ans, c'était lourd. Et je n'avais pas de relais, moi, d'un psychanalyste ou d'un psychiatre à qui me confier. Donc c'était compliqué. C'est compliqué.
Mireille Dumas vous propose ce documentaire qui passera donc demain soir en prime time, 20h55, sur France 3. Paul Naref, Delpech Ferrer, la rançon du succès. Et voici l'humeur de Guillermo Gouy. En live, c'est du live, hein.
Sérieux ?
C'est le vrai, ouais.
Absolument. Bonjour les amis.
Non. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors comme chacun le sait, lundi matin, c'est un jour clé dans le destin de la France, puisqu'on reçoit Astrid Veillon dans la bande originale et qu'il est de
et Isabelle Vitary.
Il est de notoriété publique que Leïla ne peut pas la sentir pour une sombre histoire de, je sais pas, de cheveux sales, un truc de fille. Enfin, on va rentrer dans les détails. Peu importe. Bon, comment Nagui va gérer cet inéluctable incident, grosse question quand même. Mais l'autre enjeu de ce lundi matin plus modeste, c'est aussi le premier jour à l'Élysée de celle ou celui. Enfin, espérons celui, si je veux pouvoir poursuivre ce billet sans l'aide du service de sécurité de France Inter. Donc, de celui qui aura été élu. Bah oui, parce qu'à un moment ou à l'autre, il va falloir aller taffer pour de vrai, mon cochon. Eh oui, c'est bien beau de sortir pendant un an, les Français veulent ceci, les Français veulent cela, et moi, président, vous aurez de la confiture sur votre tartine, et vos autos seront dégivrés automatiquement, la viande sera toujours bien cuite, et fini les aigres d'œsophages, etc. Très bien. T'as vendu, les gens ont acheté, c'est super. Mais bon, t'es pas l'employé du mois chez Darty, quoi. T'es président de la faune et de la flore de ton pays. Donc, à un moment, une fois que t'as reçu le limoncello du patron dimanche soir, entouré de tes proches, et que tu leur as dit « Oh, je t'aime, c'est pas parce que je suis président, je sais que je suis bourré, mais je te le dirai même si je t'ai pas bourré, je t'aime, putain !» Bah, le lendemain matin, tu te réveilles et t'as réellement un nouveau boulot. Je veux dire, à part ici Daniel Morin qui a été livré avec la maison de la radio, on a tous vécu un premier jour dans un nouveau boulot. En général, t'arrives, tes nouveaux collègues te jugent, mais il y en a un qui est plus cool que les autres. Il vient te faire « Ah, je m'appelle Jean-Paul !» Mais tu peux m'appeler Jean-Paul. Puis il y a un silence crispé. Il dit, j'espère que t'aimes bien la déconne, parce qu'ici tu vas être sérieux. Et là tu penses à mourir dans un accident de kitesurf. Mais la DRH arrive et elle te place à ton nouveau poste de travail. Et là, forcément, t'attends toujours 2 heures que quelqu'un vienne te donner un login. Forcément, ça va forcément arriver à celle où celui, enfin espérons celui, si je veux continuer à pouvoir voler votre pain avec mes billets semi-réussis, ça va forcément arriver à Macron. Son premier jour à l'Élysée, il va arriver vers, je sais pas, à 10h40, quelqu'un va arriver avec une chemise blanche à manches courtes pour lui donner un post-it avec écrit login Emmanuel 123, mot de passe en marche 666. Parce que l'IT manager à l'Élysée a été engagé sous Pompidou. Un peu comme à Inter, en fait, d'après ce qu'on m'a dit, c'est toujours le même staff que sous Stéphane Bern. Hein. D'ailleurs, ici, le premier login de Nagui, c'était Nagui 1M45. Il a dû rectifier lui-même. Aujourd'hui, c'est Nagui 1M47. Faut pas le faire chier avec sa taille, Nagui.
Mais bon. Oh non.
Ce matin-là. Je la voyais pas là.
Je l'ai pas vu venir, celle-là.
Ce matin-là, il y aura un flottement, quoi. Il va s'emmerder le temps de recevoir sa nouvelle adresse email et les codes du nucléaire. Je veux dire, je suis sûr qu'il va appeler ses potes pour le dire. Putain, la terrasse est malade ici. On va faire des soirées de dingue. Ça va être le carnage. Trouvez-moi le numéro de Bob Sinclair et tout. Puis on va se faire un compte Tinder. Et quand il aura appelé tous ses potes, là, il va passer au canulaire téléphonique. Genre appeler Angela Merkel. Allô? Non, rien. Elle va accrocher. Is the valise of RTL raccroché. Il a que ça pour passer le temps. C'est vrai, même les grands de ce monde, ils doivent apprendre. C'est vrai au début. Genre le pape, quand il arrive au Vatican pour son premier jour, il fait quoi? C'est pareil, quoi.
Un peu de cheminée.
Et oui, il se dit pas directement, je vais relancer Jésus dans le cœur des gens. D'abord, il se demande où se trouvent les gants de toilette, le papier aluminium, etc. C'est genre de trucs, quoi, les trucs de base. Et ben voilà, après seulement, il convoque les évêques pour aller faire un paintball. Et ben ce sera pareil avec Macron. Et vivement que ce soit pareil avec lui, qu'on puisse passer à autre chose que cette élection. Allez, bonne émission, les amis.
Merci.
Bravo. La bande originale.
Le documentaire donc consacré à Michel Polnareff, Michel Delpech et Nino Ferrer, c'est demain soir sur France 3. Mais tout de suite, quelques années mises en musique dans votre carrière, Mireille Dumas, notamment en 1971 où vous écoutiez...
Let's nana, c'est dans la voix et dans le geste.
Léo Ferré, c'est pas pour rien si on écoute Léo Ferré. D'abord, un, parce que vous nous l'avez conseillé et recommandé comme étant la bande originale de votre vie à ce moment-là. À 18 ans, vous demandez, en étant mineur, puisque à 18 ans, on est mineur en 71, votre émancipation.
Tout à fait, tout à fait. Et je l'ai demandé à ma mère, parce qu'à l'époque... On est loin de l'époque Tanguy où on reste chez soi quand on avait passé le bac, on partait faire des études. Moi, je suis partie à Aix-en-Provence.
Ouais, tout de suite.
Au contraire, c'était de quitter la famille, s'envoler vers les autres, vers l'extérieur. Et je suis arrivée à Aix-en-Provence et 6 enfants, mère institutrice, pas de père, pas beaucoup d'argent. Donc, il fallait. Moi, j'avais besoin de petits boulots et j'avais besoin de signer des contrats. Aussi
et vous
pour
ne
le théâtre.
Pouviez
donc
pas,
je ne
vous
pouvais
étiez
pas
mineur.
Puisque j'étais mineure. Ma mère habitait en région parisienne, enfin à Chartres, à côté de Chartres, dans un petit village. Moi, j'étais complètement dans le sud, donc je lui ai demandé de m'émanciper. C'est pour moi resté un moment très fort parce qu'on est arrivé devant le juge. Ma mère a tout de suite dit oui, elle avait une confiance formidable dans ses enfants. Elle nous a d'ailleurs tout donné, colonne vertébrale. Elle a fait de nous des citoyens et des citoyennes. Et on est arrivé devant le juge et le juge, on se souviendra toujours, a dit mais alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a volé, elle a...
Ah, pourquoi voulez-vous
parce que l'émancipation, à l'époque, c'était ça. Et ma mère a dit, mais non.
J'en veux plus, c'est tout.
Tout va bien avec ma fille, elle est étudiante et tout, c'est drôle. Il n'avait jamais vu ça.
Lorsque vous parliez tout à l'heure avec Leïla de Peter Brook en disant, je ne voulais pas être comédienne, je ne me sentais pas à l'aise sur scène, vous vouliez quoi à ce moment-là, à 18 ans?
À 18 ans, qu'est-ce que je voulais ? Je voulais aller vers les autres, je voulais...
Être institutrice comme votre maman ?
Non, pas du tout.
Du tout.
Je n'avais pas envie de... Non, je ne savais pas. Je sais que j'ai très très tôt, très vite, j'ai eu envie de devenir journaliste. Ce que je suis devenue, ce que je suis depuis l'âge de 20 ans. En fait, très vite. Et puis j'adorais écrire. J'étais pas du tout... On regardait peu la télévision. Moi, je viens de l'écriture. Et très vite, je suis devenue stagiaire au Monde et j'ai écrit pour Pierre Vianson-Ponté à l'époque.
En 1986, vous écoutiez Rita Mitsouko. Rita Mitsouko, vous l'écoutiez et surtout vous avez interviewé, puisque je rappelle que Rita Mitsouko n'est pas le nom de la chanteuse, quand, c'était bien Fred Chichin et Catherine Ringer. Et là vous interviewez Catherine Ringer en 86 dans une émission qui portait bien son nom, puisque ça avait systématiquement un rapport à la sexualité, oui. Sexy Folie, ouais. Et où là,
de Pascal Brogniaux.
Voilà, hein. Et où là où elle vous confie son passé dans le porno.
Oui, c'est ça. Oui. Je me suis retrouvée à faire ces petits entretiens parce que je faisais des documentaires. Donc Pascal Brogniaux m'avait dit, si tu nous faisais
qui
était la productrice, etc. Hein, je n'étais pas du tout productrice à l'époque, ni je portais ce concept. Mais elle m'avait demandé de faire des petits entretiens sur l'intimité des artistes. Et j'ai interviewé Catherine et ça a été un moment formidable. D'ailleurs, quand je le revois aussi sur le net, ça passe en boucle.
C'est gênant.
Frotte les. Non, c'est pas ça. C'est drôle. À l'époque, moi, j'arrive comme ça, sans maquillage, sans rien, les cheveux, une dégaine absolument pas possible. Je parle avec Catherine, elle était un peu dans le même trip. On s'était vu un peu avant, on s'était rencontré et tout. Et à un moment donné, elle me dit des choses, mais absolument invraisemblables, qu'elle adore les gens bossus, elle me cherche, elle me provoque pour que j'arrive à lui dire, mais finalement, vous êtes un peu perverse, Catherine. Et donc, j'y vais et tout. Elle me dit, ah non, il faut pas, vous ne pouvez pas le dire. Ah, si vous le répétez, je vous gifle. Et je le répète, elle se lève, elle m'envoie une gifle. C'est drôle. Ça, ce n'est pas sur le net, mais c'est ça qui était drôle.
Incroyable.
Non, mais c'était.
Oui, pour
c'était
rire. Assez...
Oui, un peu pour rire. Mais on a continué l'entretien. C'était.
Quand même.
Nagui, c'était à l'époque, hein, vous ne levez pas et pas gifler.
C'est pas devenu une habitude. Est-ce que les questions.
Il est dangereux, Nagui.
Oui, il est dangereux.
Les questions que vous posiez à l'époque pourraient être reposées aujourd'hui.
Mais impossible, je vous jure. Et puis alors, je me revois interviewant même Jacques Lang. Et puis des tas de comédiens politiques, etc., sur des questions, mais absolument, non, j'aurais honte aujourd'hui. Mais c'était aussi les années 80, on pouvait, c'était beaucoup plus libre, finalement, pour cela.
Et qu'est-ce qu'on apprenait à travers ces confidences sur ces personnalités ? Quel était aussi le... Est-ce que vous y voyez un rapport, quelque chose qu'on pourrait...
Ça serait beaucoup. C'était un peu léger. C'était ouais. Un peu fun. C'était à l'intérieur. C'était des petits modules de 4 minutes à l'intérieur d'une émission. On était beaucoup plus dans le fun que dans l'idée d'apprendre quelque chose de fondamental. Et de temps en temps, il y avait des éclats de vérité, mm-hmm. Parce que la vérité ne vient que par éclats et par morceaux. Donc, qui étaient comme des diamants, mais pas toujours et rarement.
Justement, finalement. En 1992, là, vous volez de vos propres ailes en tant que journaliste toujours et productrice. Donc totalement libre du produit que vous fabriquez et de ce que vous proposez aux téléspectateurs. Et c'est le succès en 92 de Ballet Masque. À ce moment-là, vous dites, écoutez... C'est votre côté italien, ça ?
Ah ouais. Ça, c'est ma mère, ça m'émeut aux larmes. Hein ? C'est une chaîne désormais. C'est sur l'amour qu'il y a jamais les êtres.
C'est une
chaîne qui se dissout.
Ça va,
non, ça va. Elle est belle, Caruso, ouais. Chantée par Pavarotti, c'est magnifique.
Vous avez été l'une des premières, parce qu'il n'y a pas de classement d'arrivée à savoir qui a été la première à faire des interviews dans la confession. On parlait tout à l'heure de Denise Glaser qui avait ses émissions. Il y avait beaucoup d'émissions à la radio, y compris d'ailleurs une animatrice sur Inter qui vous a influencé, c'était Anne Gaillard.
Tout à fait.
Vous l'écoutiez sur...
Mais parce que j'ai vu certains documentaires d'Anne Gaillard qui pourtant n'a rien à voir avec moi. Elle était
plutôt sur la consommation que sur le.
Voilà,
la vie intime,
mais elle a fait quelques documentaires absolument, absolument extraordinaires et voilà. Et je regardais et en même temps je me disais, je me souviens, elle fait un documentaire sur la transsexualité. C'est l'une des premières qui a fait ça. Je regardais ce documentaire et je me disais c'est formidable ce qui se dit à cette époque-là. Et en même temps j'avais envie, c'est là où je me suis dit vraiment j'ai envie de faire ce métier, j'avais envie à un moment donné d'être à sa place, d'interviewer, c'est tout, c'est aussi simple que ça.
Et comment on se décide à, avec en plus ce titre, bah les masques, de faire de la vérité ou de ce qui est caché, de l'intime, un spectacle et de le montrer au grand jour avec le risque évidemment que ça pose des problèmes aux personnes qui se sont confiées.
Les masques, c'est
une vraie responsabilité.
Oui, c'est une vraie responsabilité. C'était un petit peu passé au-delà des apparences. Début des années 90, dans les années 80, la télévision, elle est quand même un petit peu, sont des... entre guillemets, c'est plutôt la bourgeoisie qui s'exprime, les gens qui ont les mots, c'est plus facile, voilà, et ceux qui vivent...
Il n'y a pas beaucoup de testimonies, des émissions testimoniales.
Pas du tout, la fracture sociale est en marche, on était bien avant Chirac, nous, qui en a parlé, mais en 91, 92, les premiers à en parler, à aller chercher ceux qui, justement, qui étaient derrière les fenêtres, derrière les portes, qui souffraient en silence, qui vivaient des situations de marginalité graves, ou qui peuvent arriver à chacun d'entre nous, hein, si vous êtes viré, si tout à coup vous divorcez et tout, vous pouvez aussi partir.
Tout ce que vous dites est toujours actuel.
Mais oui.
Mais alors pourquoi ça ne se fait plus ces émissions-là?
Je ne sais pas. Le testimonial a vraiment...
Ça se fait.
La télé-réalité a remplacé le testimonial. C'est-à-dire on est passé à une autre manière de...
Non, puis il y en a un petit peu l'après-midi. Mais c'est, voilà, c'est plus l'après-midi. C'est-à-dire... Oui.
Si, il y a des émissions sur France 2 l'après-midi.
L'après-midi.
L'après-midi. Après, c'est un certain rythme aussi de diffusion qui fait qu'on accumule un certain nombre de témoignages et que c'est devenu une forme de... Voilà, de
programme qu'on regarde comme ça. L'idée, c'était plus de mettre en perspective...
Il y avait quand même une élégance, dans Bas les masques qui a été ternie par C'est mon choix, par exemple.
Ah oui, ça a été
une espèce de foire d'empoigne.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, la télé-réalité, nous on faisait... Voilà, ces émissions, c'est des témoignages pour mettre en perspective des vies et surtout un problème. Des spécialistes étaient là. C'était pas simplement de la confession, c'était aussi du débat. Il y avait des rencontres, on échangeait. Pareil pour vie privée, vie publique. C'était de l'échange. Donc c'était une mise en perspective, on cherchait pas le spectaculaire, c'était pas l'alarme à tout prix, on cherchait le sens.
Alors pourquoi ces émissions se sont arrêtées? Et parce qu'il y avait moins de personnes enclins à venir raconter des choses sur leur vie privée, parce que le...
Pas du tout.
Vous en aviez marre, les chaînes...
Ah, moi, vous me parlez, c'est la question à moi ou en général?
En général, pourquoi ces émissions n'existent plus?
Moi, j'ai trouvé, si vous voulez mon avis, je trouve que ce genre d'émission, en tout cas de témoignage avec le débat en prenant un problème, il y a eu aussi la marche du siècle, toutes ces émissions-là, vie privée, vie publique, ce genre d'émission, pour moi, manque atrocement aujourd'hui sur les chaînes de télévision. Et je trouve qu'on en aurait grand besoin au moment où, justement, il y a tellement de problèmes de société. Je trouve que ça manque. Non pas... Moi, je suis très bien dans le documentaire. J'adore ce que je fais. Donc, je ne plaide pas du tout pour moi, bien au contraire. Mais je trouve que ça, effectivement, ça manque.
Si on vous le propose, vous accepteriez?
Non, pas du tout. C'est pas évident.
Ah
c'est
bon
pas évident du tout parce que ça fait maintenant 6 ans. Que je suis revenue au documentaire, que j'adore.
Vous êtes revenue à vos amours, mais.
À mes premières amours, à la réalisation.
À vous entendre parler de ces entretiens. Ceci dit, il y en a dans vos
documentaires. Je mène des entretiens, c'est ce que j'allais vous dire. Or, il m'arrive de temps en temps, il se passe quelque chose, je me dis, ah là, j'aimerais bien pouvoir intervenir, mais c'est très rare.
Mais vous êtes auto-alimenté d'ailleurs dans votre documentaire en prenant des extraits d'interviews que vous aviez faites de Michel Delpech.
C'est vrai.
J'ai dit bêtise.
Non, c'est vrai, parce qu'il y en a. Je suis pas à l'antenne, si.
Non,
si.
Vous n'êtes pas à l'antenne.
Non,
mais on comprend que c'est.
Voilà, oui, parce que je l'ai reçu plusieurs fois.
C'est vrai
que je l'ai reçu à un moment d'ailleurs très important de sa vie, où il parle de sa conversion et de sa déprime et tout. Et c'est une interview qu'on n'a jamais revue. Donc je me suis autorisée.
Totalement raison. Voilà.
Et à quand l'émission d'interview de Mireille Dumas par Mireille Dumas?
Voilà, ce serait pas mal, hein.
Oui.
c'est vous peut-être qui allez le faire.
Oh non, ça serait plus
Donc Jean-David Nasio, psychiatre et psychanalyste, l'auteur de plusieurs ouvrages comme Oui, la psychanalyse guérit, Aux limites du transfert, Art et psychanalyse, ou encore Mon corps et ses images.
Waouh,
vous n'arrêtez pas.
On vous a demandé
de venir parce que justement l'avis et l'opinion d'un psy par rapport au travail réalisé par Mireille Humane, non pas pour juger son travail, mais en tout cas ce qu'elle met en exergue dans ce documentaire sur notamment cet appétit à la notoriété, cette course à la célébrité et finalement cette blessure causée par la célébrité dans les carrières de ces trois artistes que sont Nino Ferrer, Michel Polnareff et Michel Delpech. D'abord, quel est le moteur pour devenir célèbre?
Alors, attendez, avant.
J'attends.
Avant. Je voudrais dire, c'est merveilleux parce que c'est grâce à cette émission que je comprends que Mireille Dumas est un psy. C'est un psy qui, depuis toujours, elle cherche l'intimité des gens.
Mais vous débarquez ou quoi? Ça fait d'abord. On est au courant quand même.
Voilà. C'est-à-dire, non.
Mais, ouais, mais elle ne fait pas payer la consultation.
Pour le psy que je suis, c'est finalement le fil rouge, c'est ça. C'est abat les masques, vie privée, vie publique, etc. Donc, ça, on devrait aussi se demander sur la célébrité de Mireille Dumas.
Je rappelle que abat les masques, c'était une pétition contre la compagnie créole qui n'a rien à voir avec. Tekalekatan, c'est autre chose. C'était autre chose.
Ah là, ce mépris pour nos amis créoles. Stigmatisation du zouk, bravo.
Pour en revenir à la notoriété, quel est le moteur dans tout être humain qui se dit justement, tiens, je vais monter sur scène, je vais me produire. Mireille Dumas tout à l'heure disait qu'elle n'avait pas envie d'être comédienne, qu'elle se sentait pas à l'aise sur scène ou face à des caméras, et pourtant ces artistes voulaient non seulement monter sur scène, en ont profité, sont tombés dans les pièges de la célébrité et ont été détruits par cette célébrité.
En général, d'abord, je voudrais vous dire, on ne cherche pas la célébrité, on la trouve. Non.
Oh, quand même.
Non. Souvent.
Aujourd'hui, pardon, ceux qui veulent absolument être dans la télé-réalité, ils veulent juste passer à la télé. On ne sait pas pourquoi, ils veulent passer à la télé,
non.
Point.
Non. Si. Pour les gens dont on parle, par exemple, que ce film, il est merveilleux.
Polnareff,
que
ce soit Polnareff,
voilà. Oui. Et dans le film, on le voit très bien. C'est-à-dire que. Et d'abord, il faut bien comprendre, la célébrité vient à nous parce qu'on a envie de faire. Et Polnareff, quand il raconte avec cette tête d'ange, comment il écrit les poèmes, parce que ce sont des poèmes, et comment il prépare la musique, ce qui l'intéresse, c'est ça. Eh bien, la célébrité vient avec ça.
Parce que c'est un artiste.
Exactement. Et c'est intéressant que les jeunes qui nous écoutent sachent, jeunes et moins jeunes, c'est pas la célébrité, on ne cherche pas la... Beaucoup de
il y
fois...
Il y a une phrase quand même qui est dite dans le documentaire de Mireille Dumas, c'est Nino Ferrer qui explique justement que la pression de la célébrité et du système et du monde de la musique et des obligations d'être en concert et des représentations et d'avoir du succès était en train de l'attaquer et de l'abîmer. Et que la peinture, qui est un autre art auquel il se consacrait, était justement sans ce genre de jugement, sans cette machine infernale, et que c'était pas lui qui était le premier en face, c'était l'étoile.
Mais par exemple, Ferrer avait dit, il était un musicien de jazz.
Ferrer,
pardon.
Léo Ferrer.
Oui,
non, ça c'est le cousin.
Ferrer. Et que il s'est aperçu qu'il pouvait donner des mots à la musique. Mais enfin, ce que je voudrais dire, c'est, en pensant à l'émission, il y a trois temps dans la célébrité. Le premier temps, je suis surpris. Je suis déconcerté de voir que ce qui me plaît à beaucoup de monde.
La reconnaissance.
Oui. Mais ce n'est pas la reconnaissance, c'est que j'ai fait quelque chose et du coup, je découvre que ça plaît à tout le monde.
Ça, c'est la première étape. Deuxième étape.
La célébrité, il faut la gérer, monsieur Nagui.
Il ne gère rien du tout. Mais...
C'est pas facile. C'est-à-dire qu'il faut toujours se renouveler.
T'as compris?
Il faut toujours.
T'as compris l'Égyptien? Tu vas te renouveler un petit peu. Il est infernal, hein, mais continuez à lui parler.
Toujours.
Fait du bien.
Non, mais il faut toujours.
Ne me montrez pas du doigt, c'est très menaçant, monsieur.
Il faut toujours trouver du nouveau.
D'accord.
Il faut toujours trouver quelque chose qui nous maintient.
Et la troisième étape.
Dans la deuxième, il y a un problème, c'est que ça va se installer une affaire. Il faut le gérer. l'argent, les collaborateurs, ah, ça, par contre, ça devient faire, hein, important.
Et les collaborateurs.
Et la troisième, c'est ça qui commence la chute. C'est-à-dire que dans la deuxième, avant, je n'oublie pas, dans la deuxième, il y a une chose très importante, c'est que ça devient angoissant. Parce qu'il faut se renouveler, il faut inventer.
Il faut être à la hauteur.
Il faut être à la hauteur.
C'est Michel Delpech dans vos documentaires qui dit et qui reconnaît ne pas pouvoir rester 5 minutes seul.
Voilà.
C'est incroyable d'entendre cette phrase.
C'est très
j'en ai marre d'être avec des idiots.
Vous voulez pas produire.
Oui, non, je parle pas de toi, j'ai pas d'idiote, un idiot.
Oui, enfin bon, c'est collectif.
Non, tu étais pas.
Ce que je voulais dire, monsieur Nasio, c'est qu'il y a une différence, effectivement, je pense que c'est ce que vous voulez signifier, Nagui, entre la notoriété pour un artiste et le lambda qui veut être célèbre pour être célèbre et qui fait n'importe quoi.
Voilà.
Donc c'est une différence de notoriété, on l'a jamais fait.
Parlons maintenant que des artistes et de ceux qui sont reconnus comme étant des étoiles, comme étant des stars et avec un talent. Est-ce qu'il est possible pour eux de vivre une reconnaissance de notoriété et être heureuse, être épanouie, avoir une famille, ne pas aller de lit en lit ou de produits interdits en produits interdits.
Non, mais c'est ça qui rend heureux. Bien sûr.
Mais sinon, ça sert à quoi d'être célèbre?
Bien sûr que. On a Aznavour.
Oh, les méchants.
Formidable. Goldman, Aznavour.
Ouais, ce sont des exemples de vie équilibrée.
Non, ils sont pas ensemble. C'est très important, l'entourage. Et donc, quand vous parliez que les femmes, les épouses, sont très importantes, parce que sont elles qui vous soutiennent. Donc, il y a dans ce troisième temps le moment où on sent qu'on est mal, on n'a plus envie de produire, on n'a plus envie de subir la pression.
Est-ce que c'est l'entourage qui peut donner ce qu'on appelle la grosse tête, le boulard?
Non, l'entourage au contraire. L'entourage, c'est pas l'entourage qui vous donne la grosse tête. L'entourage vous rappelle toujours à l'humilité, vous rappelle toujours à votre défaillance.
S'il vous aime.
Voilà. Et l'épouse vous aime.
Je pense qu'il y a quelque entourage qui peut être.
Destructeur.
Je pense aussi.
Voilà. L'entourage vous aime tel que vous êtes. Et non pas tel que les gens croient que vous êtes. Ah. Et elle sait.
Ça va changer ta vie, Daniel.
Vous
m'avez demandé de jouer le rôle du psy, je joue au mieux.
Hein. Oui, parce qu'en fait, il faut dire qu'il est comédien, il n'est pas du tout psy. Hein.
Monsieur, la réincarnation de Garcimore.
Et d'Orlando.
Et la vie de Nagui, votre vie va se transformer.
Ah, ben là,
ça va être différent.
Tout va changer.
Mais justement, vous, Mireille, vous parliez de ça aussi un moment avec les masques de la notoriété vous arrive.
C'est ça.
Comment vous l'avez géré, vous?
Moi, c'est ce que je voulais. D'ailleurs, je n'avais pas fini à l'heure. Je disais que j'étais arrivée à 39 ans à l'antenne et que j'étais déjà construite. Voilà, j'avais, contrairement aux artistes auxquels on fait référence.
Une vie équilibrée.
À 39 ans, j'avais une vraie colonne vertébrale. J'avais mon compagnon de vie, Dominique, le fameux Dominique dont a parlé Nagui tout à l'heure, qui est mon mari.
Qui est un brillant réalisateur.
Je préfère dire compagnon de vie, j'ai toujours dit ça, voilà. Mais qui était là. Enfin, voilà,
qui est corse, qui est surtout corse.
Voilà,
on peut tout dire de lui, mais il est corse. Il a appelé les choses
avec respect.
Il a intérêt.
Donc vous aviez une différence.
Vous aviez respect, c'est de la trouille.
Donc, et puis il y a une éducation aussi qu'on vous transmet ou non lorsque vous êtes enfant, on vous arme ou non, en tout cas pour cette expérience qui est quand même un petit peu, ce qu'on va dire, troublante pour le moins.
Merci Jean-David Nasio d'être venu, ravi de vous avoir appris qu'il y avait un côté psy aussi chez Mireille Demain, mais ça a été un plaisir.
Revenez quand vous voulez.
Daniel Morin, on voit bien que dans le showbiz, justement derrière les paillettes, la notoriété, le succès malgré la gloire, il y a toujours ce côté tourmenté de certains artistes, femmes ou hommes, perdus d'ailleurs dans leur milieu. On ne s'en rend pas compte, nous, de l'extérieur, mais évidemment quand on creuse un peu comme le fait Mireille Dumas dans son document.
Nagui occupé, Nagui outragé, Nagui défoncé, Nagui libéré d'un poids, celui bien lourd de cette réflexion digne d'un animateur débutant d'Énergie 12. Mais merde, monsieur Guy, arrêtons de plaindre ces polytoxicomane. Alors oui, c'est vrai que Vianney semble perdu quand il chante. Ouais, t'es pas là. Et Christophe Maé, certes, lui aussi, paraît paumé quand il braille. Il est où le bonheur? Il est où Mais bon, on est loin de la dépression chronique due à la malédiction du micro-pénis, comme chez Guillermo Guiz. On est à milieu de l'addiction au crack et à l'agneau de Leïla Kadour Boudadi pour des raisons de vide sentimental et de désert érotique. En plus, la réalité est bien plus sordide et terre-à-terre. Si Guillermo est méchant, c'est parce que de temps en temps, il prend sa douche avec moi, il ne supporte plus la comparaison. Et si Leïla est odieuse, c'est parce qu'elle souffre de l'infirmité qui frappe Guillermo. Mais bon, pas de quoi fouetter un chat. Enfin, je ne suis pas un spécialiste, hein. C'est pour ça que je vais demander son avis à un homme qui sait sonder les affres de l'âme humaine. Je vais demander son avis à mon ami et confesseur, le père Albert. Bonjour mon père.
Bonjour Daniel.
Mon père, pensez-vous que les artistes sont des êtres tourmentés et perdus ?
Mais pas du tout, Daniel. Tout ça, c'est des conneries. Non, mais enfin, c'est des conneries. Les artistes sont frappés d'un mal beaucoup plus basique.
Lequel ?
Ils sont cons. ce sont des êtres sans cervelle, qui n'ont que des émotions et des sensations, comme les bêtes.
Ah bon, vous êtes sérieux ?
Mais oui, et ton étonnement me fait me demander si tu n'en es pas un. Oui, Daniel, l'artiste est con. Il est idiot, voire complètement débile. Quand il a du succès, il remue la queue comme un clébard, mais ça s'arrête là.
Ah ben la satisfaction de l'artiste, ça ne s'arrête pas là. Il aime les récompenses.
Mais comme un chien qui aime les croquettes. L'artiste tourmenté est comme le chien qui a perdu son os. Il est malheureux. L'artiste et le clébard au niveau émotion, c'est le même combat.
Vous ne pouvez pas dire ça, mon père.
Moi, je vais me gêner.
Bon, bah, si vous le dites, d'accord. Voyez, monsieur Guy, oui. Un des plus grands spécialistes ici présent à ma gauche est formel. Vous avez tort. Une fois encore, désolé, mais vous avez dit...
N'importe quoi.
Merci d'être en Albert Albu.
Oui, on est riche, on a bonne figure.
On est en direct, là ?
Non,
ça va, j'ai
c'est juste...
On
s'entraîne.
On finit la maquette pour Europe 1 pour la rentrée, puis après on verra ce qui se passe. C'est la bande originale, soyez les bienvenus. Avec Leïla Kadour-Boudadi, Daniel Morin, notre invité Mireille Dumas.
Bravo.
Mireille Dumas qui signe ce documentaire consacré à... On va rajouter un peu de musique quand même. On n'a pas assez écouté Michel Bonnareff. On n'a pas assez écouté Nino Ferrer. Ah, tu t'aimes quand ça monte ?
J'ai compris. Trop beau. Mais il avait une voix tellement étonnante pour l'époque aussi, c'est ça. C'est il est d'une modernité incroyable, Paul Naref.
Je n'avais pas vu Mirza. La 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 la. J'avais pas vu Mirza.
Il y a notamment une chanson dont vous parlez dans, sur Nino Ferrer, qu'il aimait lui particulièrement, qui était formidable, mais qui n'a pas connu de succès, interprété par Nino Ferrer, mais interprété par Luz Casal. Et chanté par Nino Ferrer.
Je suis seul. La nuit vient. Et je me souviens.
Parce que ce n'est pas pris au même moment.
Voilà.
D'un an d'amour.
Là, voilà.
Et là, il commence. Il y a la montée. Enfin, c'est après.
Et c'est cette absence de reconnaissance sur une, là, un certain côté de son talent qui le blessait.
Mais oui, cette chanson, elle est un peu symptomatique du malentendu entre Nino Ferrer, les médias, le public. C'est qu'il écrit, chante cette chanson au début des années 60. Je crois même qu'il ne la signe pas vraiment de son propre nom, parce qu'à l'époque, il faut être inscrit. Enfin, j'ai un peu oublié le code.
D'accord.
par rapport
à la SACEM,
en tout cas, à la SACEM, etc. Et cette chanson, c'est 30 ans après qu'elle devient...
Pedro Almodovar la met dans la bande originale de
Talon Aiguille. Et voilà, ouais. Et qu'elle avait été chantée un peu avant en Italie aussi, mais...
Et puis Michel Delpech, quand même. Quand même, évidemment. Quelle douceur dans cette voix, dans les paroles, et dans son regard, mais c'est vraiment...
C'est l'une de ses toutes premières chansons.
Ouais.
Il était beau, en plus.
Ouais.
Et on oublie parce que...
J'ai surtout craqué sur Nino. Nino jeune, le dandy, a une élégance incroyable, une forme de maintien, de port comme ça, de tête. Moi, je l'ai trouvé vraiment très très séduisant.
Et le sourire de Michel Delpech.
Et le sourire de...
Ah oui, c'est vrai. Ah, on craque sur le sourire.
Moi, j'avais oublié qu'il y avait une Dépêche Mania. On imagine les fans crier, se jeter ou se ruer sur Johnny Hallyday ou Claude François, mais sur Michel Delpech, c'était... Je n'imaginais pas ça.
Et quand on colossal. Voit les images...
Ah oui. Ah oui. Non, mais au point de... Je comprends que ça fasse vriller la tête. Alors justement, qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi ces trois-là? Parce que vous auriez pu retrouver aussi, j'imagine, dans la chanson française ou la musique française, des artistes qui ont connu aussi
Richard Anthony,
la gloire,
c'est ont, Jérôme,
qui ont connu aussi l'échec, le doute, les abus. Alors pourquoi
ça ne vous a pas échappé, Nagui, que c'est une mini-série, donc il y a plusieurs.
Non mais pourquoi ces trois ensemble?
Plusieurs numéros. Ces trois l'ensemble parce qu'ils ont vraiment commencé en même temps.
D'accord.
Ils commencent en même temps. Ils bousculent la vague yéyé. C'était des standards à l'époque pas mal américains qui étaient adaptés. Ils arrivent avec ce répertoire personnel. Ils ont une histoire entre eux. On en a parlé tout à l'heure. Ils se répondent par la chanson. Et surtout, ils ont des destins qui se croisent. Pour le meilleur comme pour le pire, mais avec ces bascules à des moments différents. Donc avec aussi souvent des longues traversées de dépression ou de déprime. Voilà, enfin bon, donc
l'amour, l'argent omniprésent, mais c'était des millions et des milliards. Je pense que c'est les fortunes amassées par ces artistes et dilapidées illico presto, parce que rien n'est resté, n'a rien de semblable avec ce que les artistes aujourd'hui peuvent gagner.
Exactement, puis on sent que les trois ne sont pas attachés, c'est ça qui est assez formidable. Ils n'en ont rien à faire finalement des biens matériels.
Oui, apparemment Paul Naref, dès qu'il a quelque chose, il le donne.
Il est connu pour être comme ça, très très généreux, pas du tout attaché à l'argent. Nino Ferrer, il craque tout, il en profite, il se fait plaisir.
Et c'est là où
Michel Delpech aussi, d'ailleurs, on le dit peu, mais il a été aussi à un moment donné ruiné, Michel Delpech aussi.
C'est là où on se rend compte que les chansons qu'il a interprétées étaient vraiment le reflet de la réalité dans sa vie.
J'avais des blouses blanches, un gros ceinturon, une chemise ouverte.
Sur quoi?
Médaillon. Ah ouais, classique. Hein.
Tu viendras, n'oublie pas les paroles. Hein. T'as une bonne base.
Là-bas.
C'est demain soir à 20h55 sur France 3, ce très bon documentaire consacré à Paul Naref, Delpech, Nino Ferrer, la rançon du succès. Et c'est fou, hein, on passe de la rançon du succès à une prise en otage de l'échec. C'est Daniel Morin qui est là.
Cela dit, vous l'avez cherché.
Merci Mireille.
Ah, ils sont deux contre moi. Okay. Et pourtant,
t'es de bonne humeur ?
Mes amis, quel bonheur de recevoir une invitée de talent, fine psychologue, amatrice, animatrice accomplie et belle de surcroît. Oh Mireille. Je ne sais pas si vous le savez Mireille, mais vous me plaisez. Vous me plaisez énormément.
Au secours.
J'en ai croisé de l'animatrice à bouclette qui posait des questions tordues. Questions tordues à des artistes en fin de vie. Mais vous êtes de loin celle qui, émotionnellement, me foudroie le plus. Par ailleurs, l'évocation d'artistes comme Nino Ferrer, Michel Delpech et Michel Polnareff, ça m'a mis en joie, mais d'une force. Ces trois-là, je les kiffe au-delà and beyond.
C'est vrai, Daniel. Ils font partie des meilleurs.
Vous êtes là, mon père, vous aussi. Vous aimez ces trois grands artistes?
Bien, évidemment. Comment peut-on ne pas aimer le grand Nino Ferrer, l'hypersensible Michel Delpech et le génial Michel Polnareff?
C'est vrai, que des tubes. C'est lequel votre préféré?
J'ai un petit faible pour Polnareff, le chanteur, qui posait le croupion à l'air sur ses affiches. On ira tous au paradis, l'aime-moi, qu'on soit Nangui au Balkany.
C'est une version très libre.
Oui, je sais, Nangui et Balkany sont de gros salauds qui ne verront même pas les portes du purgatoire. Mais bon, ça rime, et puis c'est un petit hommage à la musique de Polnareff.
Qu'est-ce qui vous plaît dans cette musique chez ces auteurs, mon père?
Oh, mais il y a beaucoup de nostalgie. Surtout nostalgie d'une époque où on se sentait très libre. La fameuse époque du flower power.
Ah, vous voulez dire le flower power?
Oui, c'est ça.
D'accord. On se sent... Mais libre de quoi?
Libre de s'aimer, sans se sentir jugé. Libre de célébrer des messes en plein air, les fesses au vent. Libre de laisser son corps jubiler en gros bouillon.
Mais qui étaient les filles que vous fréquentiez à l'époque?
Fille. Mais quelle fille !
Non, pardon, autant pour moi, c'est vrai, on n'est pas obligé après tout. Merci mon père. Voyez Mireille, tout le monde est au diapason avec vos choix, à savoir Nino Ferrer, Michel Delpech et Michel Polnareff.
Il manque quand même certains incontournables.
Oui Maréchal, je vous écoute.
Enfin, bordel de Dieu, il manque Michel Sardou.
Vous aimez quoi chez Michel Sardou, Maréchal ?
Il est de droite.
Oui, bon, est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui de parler de la droite, Maréchal ?
Non seulement c'est nécessaire, Morin, mais c'est vital. On est un pays de couilles molles, mon vieux. Marine est la seule à pouvoir remettre ce pays de lopette dans le droit chemin. Vous avez vu le débat hier soir ? Elle a été géniale.
Bon, pas si sûr que ça. Hein. Et qu'est-ce qui vous plaît chez elle ?
D'abord, son sourire.
C'est vrai.
Un sourire franc, oui. Sexy et patriote. Ouais. Et puis surtout, elle veut valoriser les petites retraites.
Vous manquez d'argent ?
J'ai une retraite de misère. Quand je pense à tout ce que j'ai donné, jusque dans mon intimité la plus profonde, vous connaissez l'histoire, à la patrie, et ce pour une pension de rien du tout, pas de zébi, ça me dégoûte. C'est pour joindre les deux bouts que j'ai accepté de signer un CDI sur France Inter, sur cette radio de gaucho bobo. Ceci dit, avec une meilleure pension, je pourrais partir pour une radio d'avenir.
Non.
Si, j'irai sur Europe 1.
Ah non, non, trop tard. Le quota de transfert de France Inter vers Europe 1 est complet.
Eh bien, j'irai sur Europe 2.
Oui, bon, ben, si vous voulez. Merci, Marie.
Je ne sais plus.
Voilà, Mireille. Bon, tout ça pour vous dire...
Oh, mais comment avez-vous pu ?
Qu'est-ce qui vous arrive, François ?
Mais vous avez oublié de parler de l'anniversaire de Dave. Dave qui célèbre aujourd'hui ses 73 ans.
Génial. C'est vrai que c'est important, mais on s'en fout. C'est gentil d'être venu nous voir, en tout cas.
Mais comment rater une telle occasion ? Mireille Dumas est une légende. C'est une icône, c'est une égérie. Elle est belle et bonne comme un cookie.
Bah dites-lui, elle est là.
Elle est jolie comme un panini.
Non, ça c'est Guillermo Guiz.
Bon, elle est jolie aussi.
Oui, je sais, non, mais Mireille, elle est assise un cran de là sur la gauche.
Mireille, je vous adore, vous êtes tellement plus que ce que vous croyez que je vais dire.
Bon, ça c'est bien dit.
Oui, ça veut rien dire.
Si vous lui chantiez quelque chose, François, je suis sûr que ça lui ferait plaisir.
Tu as raison, mon Dany. Mireille, je vais vous chanter un titre déchirant, un titre d'une beauté phénoménale, un titre d'amour qui va vous rendre folle. Capri, c'est fini. Mon premier amour, Nagui, c'est fini. Je pars avec Mireille pour toujours. Nagui, c'est fini. Oh oui, c'est fini.
Merci François. Merci beaucoup.
Fini.
Oui, c'est fini, c'est fini.
C'est ce que je viens de dire.
Oui, bah calmez-vous. À demain.
Merci Déborah Dargou.
La bande originale.
Ça, c'est quand même mieux, ça. C'est bien quand ça monte.
Ah ouais.
Bah ça suivait tous les deux.
Enfin.
Bah oui, enfin oui.
Nino Ferrer, c'était. Mais aussi.
La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges, j'ai de toiles d'araignée.
Michel Delpech.
On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de dîner avec nous. Pour un flirt avec toi, je ferais n'importe quoi. Pour un flirt.
Mais aussi.
Avant d'être cet imbécile, cet homme que plus rien ne dérange. J'étais un homme.
Ce qui est bien, c'est qu'en tout cas, il y a énormément de succès, d'énormes succès dans ce documentaire, mais il y a aussi des chansons moins connues de leur répertoire, et on découvre d'ailleurs que ces chansons les touchaient encore plus et beaucoup plus, peut-être de n'avoir pas été connues ou reconnues, mais elles étaient très intimes.
Oui, oui, et puis souvent elles disent aussi énormément, parce que quand on fait un documentaire de ce genre, bon, c'est bien de se faire plaisir en réécoutant des tubes qui ont aussi un sens dans le parcours. Mais certaines chansons, en fait, racontent beaucoup plus de choses. Donc, il ne faut pas s'en priver puis les faire découvrir aux autres.
Alors, on l'a dit, on a aimé, et ce documentaire est une réussite. Encore une fois, Mireille Dumas, ça sera demain soir sur France 3. Mais je vous connais, je vous sais perfectionniste. Y a-t-il quelque chose qui n'est pas dans ce documentaire consacré à ces trois artistes et qui vous manque parce que vous n'avez pas eu le temps, parce que vous n'avez pas eu des accords peut-être de diffusion de telle ou telle archive ou...
Non.
Aucune, d'accord ?
Non, je me dis peut-être est-il au courant de quelque chose.
Pas du tout.
Quand
il fait ça, il est au courant d'un truc.
Absolument pas, parce qu'on a passé c'est quand même plus de 12 semaines de montage. C'est du boulot. Et en amont, c'est du boulot. Il faut quand même le réfléchir, le travailler, tout. C'est le temps d'un film pratiquement.
C'est du boulot.
Un long métrage.
À la fois, on s'en rend compte quand on voit la masse d'informations diffusées, et à la fois, on s'en rend pas compte tellement c'est fluide et c'est l'histoire est racontée.
L'idée, vous savez, du travail bien fait, entre guillemets.
C'est qu'on ne le voit pas.
Une idée de facilité.
C'est de l'effacer, c'est que ça ne se voit pas, bien sûr.
C'est vrai.
Voici, tu sais de quoi tu parles, Daniel.
Ouais,
voici le brouillon de culture de Leïla Kadamboudadi. Pour Mireille.
Mireille, je vous sors de la promo un petit bol d'air. C'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. On commence par un premier son pour vous.
Pour la toute première fois, Rachida Dati, François Bayrou, Jean-Pierre Raffarin, Cécile Duflo et Jean-Luc Mélenchon ont accepté de nous livrer la bande originale de leur vie.
Politique, ils connaissent
le procès,
la chanson.
On prépare le procès, hein, de la bande originale.
Politique, ils connaissent la chanson. C'est le teaser de votre documentaire qui est sorti en 2016. Est-ce qu'interviewer des politiques, c'est un exercice très différent des personnalités, des artistes? J'imagine qu'il y a une forme d'éthos, de posture qu'ils tiennent à conserver. Alors, comment on s'y prend?
En fait, l'exercice est exactement le...
C'est chiant. On ne peut pas mettre un mot compliqué tout de suite.
Je connais Porto, c'est Aramis.
L'exercice est le même, mais justement pour qu'ils ne pratiquent pas la langue de bois, parce qu'ils sont quand même assez doués.
Ils sont coutumiers.
Ils sont coutumiers du fait, oui, ils sont habitués à répondre et tout. C'était cette idée de passer par les chansons qui les ont marquées tout au long de leur vie pour ensuite, partant de la chanson, en fait, les interviewer dans une interview classique et les faire parler. Ça a très bien marché.
Alors, Rachida Dati, Aimé Sardou.
C'est une très bonne idée. On devrait faire une émission de radio.
Rachida Dati, Aimé Sardou, Jean-Pierre Raffarin, Barbara, François Bayrou, Gloria Gaynor, Cécile Duflo, Corinne Charby et Jean-Luc Mélenchon, Carla Bruni.
Oui, Carla Bruni, effectivement. J'essaie de me... Parce que comme je ne suis plus dans ce film, c'est...
Alors, femme de Nicolas Sarkozy.
Jean-Luc Mélenchon et Carla Bruni, ça j'imagine que ça doit permettre de poser un certain nombre de questions.
Oui.
C'était en 2016, donc...
Bien sûr, c'est d'ailleurs toutes les questions que je lui pose. Et il raconte que dans une... Bah oui, il assume. Bien sûr qu'il assume. Il n'avait pas trop envie d'en parler,
d'accord,
pour te dire. Il n'avait pas vraiment envie de parler du choix de cette chanson. Mais en fait, c'est un moment où il était un petit peu comme ça...
Bourré.
Non, un petit peu down, dans une période, justement, il s'était pris surtout la claque de 2002.
Ouais.
Il était ministre, Jospin, on connaît toute l'histoire, a été au deuxième tour éliminé. Et du coup, il était un peu down et il écoutait cette chanson. Il en parle très bien d'ailleurs, de Carla Bruni. Il avait l'impression qu'elle lui chuchotait à l'oreille. Ça le consolait. Ça le consolait de ses tracas. Je ne sais pas ce qu'il écoute là actuellement.
Jean-Luc Mélenchon, c'est soumis facilement à vos questions?
Il s'est soumis assez facilement aux questions, finalement. Oui, oui, oui.
Et on rappelle qu'il avait appelé à voter contre Le Pen en 2002.
Et oui, et d'ailleurs...
Comme il appelle cette année à voter contre Le Pen.
Non, justement, dans l'interview, il avait été... c'était vraiment... Il expliquait à quel point Le Pen avait été le combat de sa vie. Il avait lutté contre toute sa vie. C'est même... il faut dire qu'il est venu lui aussi du Maroc. Enfin bon, il racontait toute cette histoire.
Et ça a été vraiment son parcours.
Et c'était... Voilà, c'était quelque chose d'important. Donc, bien sûr qu'il a toujours combattu Le Pen. Ça serait bien qu'il le dise plus fortement.
Il l'a dit un petit peu.
Il l'a redit.
On le poursuit avec un autre son.
Une ambiance un peu particulière ce matin, puisque nous sommes filmés par les caméras de Mireille Dumas. Et oui, on fait de belles audiences, tout va bien, c'est l'euphorie. Du coup, Mireille s'intéresse à nous, comment notre surmoi gère-t-il la pression du succès? Tous les journalistes de la matinale ont été interviewés 3 minutes chacun, beaucoup plus évidemment pour ceux qui se sont fait violer ou tabasser lorsqu'ils étaient petits. Fabrice Drouel, par exemple, est resté 1h30 avec Mireille.
Stéphane Guillon, au micro de France Inter, c'était en janvier 2009, alors que vous réalisiez un doc sur la radio.
Je me demandais justement le rapport que vous entreteniez avec ce média. Je trouve que ça vous irait bien, moi, à la radio.
Évidemment.
Est-ce que la parole y serait différente? Parce que sans l'image, j'imagine qu'on est un peu moins dans le fait de maîtriser sa posture.
Et la puissance des silences aussi.
Tout à fait. Non, mais vous avez raison. J'y ai pensé tard, en fait. On me l'a souvent proposé, surtout quand j'animais toutes les émissions. Beaucoup de radios me l'ont proposé. J'ai toujours dit non, parce que comme je n'étais pas que journaliste ou intervieweuse dans mes émissions, je les ai toujours montées en tant que réalisatrice. En général, c'est un peu... voilà, c'est séparé, ce sont des métiers différents. Donc moi, j'ai passé beaucoup de temps dans les salles de montage et je me sentais... Je n'avais pas... et dirigeant ma propre société de production, ça faisait beaucoup. Donc j'ai toujours dit non. Et puis, le temps passant, à un moment donné, je me suis dit, mais quand même, c'est sympa. Et moi, j'aime bien le direct. Moi qui n'ai jamais travaillé en direct, finalement, puisque c'est monté, c'est du travail de montage, de réalisation. J'adore le direct et je trouve la radio formidable pour ça.
Et puis, voilà. Il y a des nouveaux formats aussi. On peut aussi faire de la radio en ligne. On peut créer sa chaîne. On peut enregistrer ses entretiens. Et...
C'est vrai qu'on peut faire plein de choses.
Oui. Et je finis avec un cadeau pour vous, un petit cadeau. C'est une biographie sur Renaud. Parce qu'en fait, là, on a vu avec cet épisode Paul Naref, Delpech, Ferrer. Il va y en avoir d'autres, des épisodes.
Oui, je suis déjà en...
Alors, qui est la suite?
Alors, est-ce qu'on peut savoir?
Je ne peux pas en parler, mais
pourquoi?
Ce sont trois femmes.
Trois femmes.
Qui, voilà, ce sera pour
trois
la rentrée.
Femmes.
Parce qu'il me faut quand même du temps pour préparer le prochain.
Vivantes?
Oui.
Trois femmes vivantes. Ouais.
Sanson.
Françoise Hardy, est là.
France Gall.
Non, Véronique Sanson, France Gall. C'est pas une mauvaise idée, ça.
Ouais.
Véronique Sanson,
France Gall. Je mettrais bien ça.
Moi, je mettrais bien Sheila. Enfin, je la mettrais bien dans la
liste. Oui, ça va.
Sylvie Vartan, peut-être.
Et Dave, puisque c'est son anniversaire aujourd'hui. Il faut
Je me demandais en tout cas.
Nagui,
D'ailleurs, je me demandais si vous alliez aller jusqu'à quelle génération. Parce que là, en s'intéressant à Paul Naref, Delpech, Ferrer, c'est marqué dans le temps. Est-ce que vous avez prévu de décliner et de vous approcher de notre période, peut-être de vous intéresser à Renaud?
Mais bien sûr, il y a un très beau film qui a été réalisé déjà sur Renaud, je crois, il y a un an. Donc, c'est sur la même chaîne. Donc, c'est un peu compliqué.
Aline Renaud, alors, la chanteuse.
En tout cas, je vous offre
mais
ça.
Mais l'idée, c'est de pouvoir... j'aimerais bien pouvoir avoir de plus jeunes artistes. Alors, c'est vrai que leur... Est-ce qu'ils vont se confier autant? Est-ce que leur...
la maîtrise de l'image, ce qui n'était pas le cas à l'époque,
aussi.
Maintenant,
oui,
ce serait pas
vie,
la même.
Il faut qu'elle soit un peu riche. Qu'il se passe
des
choses, qu'ils acceptent.
Oui, mais pour qu'il y ait de la matière, il faut qu'ils acceptent de la donner et de se confier.
Oui, et ça, je suis assez d'accord avec.
Quelquefois, ils donnent sans qu'on demande rien.
Je suis assez d'accord avec Nagui, les choses ont changé. Certains font beaucoup plus attention à l'image.
Il y a
une certaine époque, les artistes y allaient comme ça. Ça, c'est.
Il y a des confessions faites, notamment dans le documentaire par les trois artistes, qu'aucun artiste ne ferait aujourd'hui sur, justement, comme Paul Naref dit, je me sentais pas bien. Hein. L'intervieweur le dit, vous avez pris des drogues. Et il hésite un tout petit peu, puis après il fait oui.
Il dit oui, mais ça ne me plaît pas.
Ça ne me plaît pas.
C'est justement parce que j'ai essayé que je ne veux surtout plus.
Et même sur l'alcool, il dit c'est pas spécialement l'alcool, c'est j'aime boire.
Oui, puis on voit Michel Delpech, par exemple, à l'époque, quand il est tout jeune et qu'on le questionne sur les fans et les femmes, il dit oui, les femmes viennent me voir pour se confier comme un grand frère. Et on voit que 20 ans après, voilà, il dit finalement on était tous très attirés.
Alors le cadeau, c'est quoi en fait?
Alors le cadeau, c'est la bio de Renaud, Paradis perdu, d'Erwan Leloué. Et c'est aux éditions Point.
Je vais le lire
attentivement.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Désolé déjà pour Jean-François Copé, François Asselineau, François Ier, qui n'ont pas été cités par François dans son hommage original. Ça y est les gars, le mal est réparé, ne me remerciez pas. Désolé pour Charles Aznavour, qui, même mort, n'a pas eu l'honneur de faire partie de cet hommage rendu par Mireille Dumas. Chienne de vie, rest in peace, Charles. Désolé pour ma femme, Eve Chérie, ma passion pour Michel Delpech et Nino Ferrer va me pousser à tester ce sentiment de liberté. De partage de sexe à plusieurs. Mais je te rassure, pas avec Bardot, elle est déjà prise, elle est avec Nagui.
Plutôt.
Punaise, c'est son surnom.
Ouais, exactement, ouais. Un petit nom. Merci Mireille Dumas d'être venue.
Merci à vous. Merci vraiment.
Nous donner.
Vous seriez pas un peu psy, vous?
Et de voir ce documentaire, c'est demain sur France 3, 20h55. Paul Naref, Renaud, c'est à cause de toi. Paul Naref, Delpech et Nino Ferrer, rançon du succès. C'est demain, présenté par Mireille Dumas, ce documentaire. Tout de suite, ce sont les carnets de campagne de Philippe Bertrand.
Oui,
et demain, c'est Nathalie Péchala, qui sera notre invitée. Je t'en prie.
Non, mais termine, attends.
Ça
y est.
Bon, d'accord.
Je fais grève.
J'ai pas la folie des grandeurs, mais je me verrais bien dans une maison près de la fontaine dans le Loir-et-Cher. Vous aurez reconnu quand même une référence à Jean-Paul Naref, Didier Delpech et René Ferrer.
Quelle culture.
Ah ouais, je sais.
Le mash-up.
Ah, arrêtez.
Le remix par Philippe Bertrand. Ouais.
Et d'ailleurs, je vais parodier Jean-Michel Delpech. Carnet de campagne, c'est un peu 30 manières de quitter une ville.
Ah, ah ouais, oui, exact. Pas mal. Qui était une reprise de Simon Garfunkel, absolument.
Ah oui, en plus.
Oui, c'est vrai. Bonne émission, Philippe.
Oui, salut les amis. Merci.
Bisous.